Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dis-moi, selon toi, c'est quoi dans un club le poste le plus méconnu?
Le plus méconnu, moins médiatisé, et il y a beaucoup de taf. Je pense directeur général, tu sais, manager général d'un club, ouais, c'est pas du tout méconnu. C'est pas du tout connu, pardon.
Ouais, c'est vrai, c'est qu'on connaît les presses, on connaît les directeurs sportifs, mais les DG beaucoup moins. D'ailleurs, à part au PSG, je suis pas sûr de pouvoir citer le nom d'un DG d'un club de Ligue 1.
Écoute, moi j'en connais pas mal, mais en plus ils sont pratiquement tous masculins, sauf quelques-unes. Et j'en connais une qui pourrait faire plus que le taf. Hein.
Ah ouais? Qui ça?
Pauline Gamère.
Ouais. Ça dit quelque chose?
Ouais, Red Star. Ouais. Qui est ensuite passé à la Fédé. Ouais, ce serait super intéressant. Tu penses que tu peux voir avec elle pour un épisode autour du métier de DG?
Écoute, je vais l'appeler, je vais lui dire si elle est motivée, et puis je te tiens au courant.
Et bah parfait. Feu.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode ou un nouveau numéro, c'est selon, d'Alternative Football. Monsieur Cissé, comment va-t-on?
Salut Mathieu, ouais ça va très bien.
Ça va?
Ouais, très très bien.
On est très heureux de recevoir Pauline Gamère. Salut Pauline.
Salut Mathieu, salut Edouard.
Salut Pauline.
Merci de nous accorder du temps. On en parlait en préambule, on a pas mal de questions à te poser, mais la tradition ici c'est de commencer avec la problématique, un peu comme à l'école. Et donc ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est du mythe à la réalité, c'est quoi être le DG d'un club de foot?
Waouh.
Ça va, c'est pas mal.
Vous avez 4 heures.
Exactement.
Ouais.
Alors, vas-y, comment tu adresserais, avant qu'on affine un petit peu tout ça, c'est quoi ton premier take, comme disent les Anglais?
En fait, c'est difficile parce que beaucoup de gens vont dire « Ouais, finalement, un club, c'est comme une entreprise, donc le poste de DG, bon, c'est un DG assez classique, ouais, comme dans une entreprise. » Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, il y a un truc qui est très différent dans un club, il faut le comprendre. C'est que si tu fais bien ton travail ou si tu fais mal ton travail, et j'entends d'un point de vue collectif, hein, ouais, t'impactes sur la vie des gens. Ils vont être plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux le lundi matin et toute la semaine qui va avec. Et ça donne quand même une charge à ton travail qui est un peu différente. C'est pas qu'une idée de, ok, quels sont tes résultats, quel est ton CA. C'est, est-ce que tu participes quand même en conscience au fait que t'impactes la vie des gens?
Du coup, c'est aussi sur la manière dont t'es jugé. Parce que dans une entreprise lambda, t'es jugé par tes boss. Est-ce que t'as obtenu les résultats escomptés? Là, t'es jugé par tes boss. Mais t'es aussi jugé par, on va pas parler de clients, mais par les médias, par les supporters. Donc ça, forcément, ça influe aussi sur le métier.
Alors, après, il faut remettre à sa place le DG. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas tout le temps du DG dans, ouais, la presse, dans les médias, les supporters. Et généralement, si on en parle, c'est mauvais signe. Hein. Mieux pas trop en parler. Le moins on parle de toi, le mieux c'est quand même. Mais ça, c'est bien sûr, t'es jugé par tes boss. Je pense que t'es jugé beaucoup par les joueurs aussi.
Ouais.
Je pense que le poste de DG, il est important pour les joueurs parce qu'il donne quand même le rythme, l'équilibre d'un club, l'honnêteté d'un club. Mais c'est surtout une vraie exigence au quotidien qui fait que t'as du mal à couper. C'est un boulot de dingue parce qu'en fait, tu sais que c'est bien plus qu'un club, même, ouais, si on n'est pas au Barça.
Du coup, niveau boulot, la relation d'un DG avec les joueurs, elle est laquelle?
Bah alors ça dépend des fiches de poste, hein. Tu sais, à mon, ouais, avis, il n'y a pas de DG qui font exactement le même poste.
Ouais.
Souvent, tu as un peu la responsabilité de tenir les finances du club, en tout cas, moi c'était mon rôle, donc ton rôle au quotidien, c'est de dire non. Voilà.
C'est toujours facile, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est toujours facile. C'est au moins la réponse, tu l'as assez d'avance. Ouais. On vient de voir, tu sais que ça va être non. Mais ouais, tu gères les finances. Donc moi, je faisais la partie négo avec les joueurs.
D'accord.
La partie prime, elle est importante, hein, la D'accord. partie prime. Enfin, Edouard, il pourra en parler plus que moi.
Ouais. C'est pas mal.
Puis après.
Mais tu voyais les agents, du coup?
Ouais.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, parce que tu faisais tout en fin de compte. Normalement, un DG dans un club, bah, il chapeaute un petit peu tous les différents corps. Et toi, en fin de compte, au Red Star, bah, tu faisais tout. C'est-à-dire aussi, tu étais aussi directeur sportif.
Non, il y avait Steve qui était directeur sportif.
Ouais.
Steve Marley.
Ouais. Mais c'est quand même toi qui négociais les.
Moi, je négociais, mais j'avais pas l'avis sur le joueur. Steve, il me disait, faut prendre ce joueur, etc. Et moi, après... qu'il aille plus vite ou moins vite que l'autre, c'était pas ma problématique. Par contre, il fallait qu'il rentre dans ma grille salariale. Ça, c'était ma problématique.
Donc, il y a quand même cette grosse collaboration avec, avec le DS. Et j'imagine avec le président, d'ailleurs, est-ce que tu peux replacer un peu, alors, ce que tu as vécu, mais aussi ce qui sont les pratiques dans le milieu, sur comment tu répartis les tâches et les responsabilités entre le prés, le DG, le DS et potentiellement d'autres gens qui sont essentiels à la direction du club?
Ouais, je pense que alors il doit pas avoir un même schéma dans chaque club, mais je crois que c'est vraiment la clé en fait, parce que au-delà de savoir qui fait quoi, parce que ça peut bouger, parfois le président va être plus opérationnel sur le sportif, parfois il va être plus opérationnel sur les finances.
C'est le bordel. Si le président est opérationnel
Mais t'as aussi différents types de présidents. T'as des présidents dont c'est l'argent et donc forcément t'imagines qu'ils sont un peu plus proches des finances. Et t'en as d'autres qui sont des présidents directeurs généraux.
Qui sont des anciens DS aussi. Donc t'as vraiment tout. La vraie question, ça va être quelle va être la complémentarité entre chacun. Est-ce que chacun est bien dans son territoire et essayez pas d'empiéter dans le territoire de l'autre. Et ça, on le voit beaucoup dans les clubs, et que les personnes, les 3, 4, 5 personnes du senior management parlent d'une même voix. En fait, si à un moment il y a une faille, alors crois-moi, on parlait des agents, si à un moment il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir, tu sais à l'avance c'est mort.
Ouais, c'est fini. Voilà.
Moi, ça c'est un point qui marchait bien au Red Star, c'est vrai qu'on était très complémentaires, mais surtout, faut jamais contredire l'autre dans son dos, quoi. Toujours porter la même voix vis-à-vis des agents, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des médias. Si tu as cette solidarité-là, tu fais déjà la différence avec 50% des clubs français. Quoi.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est jamais la même structure. Et je suppose que tu as vécu ça toi aussi dans les différents clubs, que la manière dont le club était dirigé était différente en fonction de là où tu allais. C'est dû à quoi ça? Enfin, comment ça oscille? Est-ce que c'est l'historique du club? Est-ce que c'est la personnalité du prés?
La structuration d'un club?
Ouais.
Bah, ça dépend déjà du club, la richesse du club, parce que c'est des postes en plus. Tu vois, Paris, Marseille ou quoi que ce soit, ils avaient un DG, un président DG, directeur sportif. Mais quand t'es entre guillemets un petit club où t'as pas trop les moyens, bah, c'est pour ça que le DG il fait beaucoup de choses, le DS il fait beaucoup de choses, et parfois il y a une confusion
des gens et du job.
Marseille, Monaco, la Turquie, ouais, c'était clair, c'était un président, un DG. DG qui chapeautait un petit peu tous les corps, marketing, communication et consorts. Et aussi un directeur sportif qui lui s'occupait que du sportif. Bon, c'est relativement clair. Donc le DG, en fin de compte, c'est un gros job. Quoi. Initialement,
après,
c'est un gros job.
Il y a la place du coach aussi, hein, dont on ne parle pas, mais qui est aussi, selon les clubs, plus ou moins important par rapport au DS. Et c'est la quatrième personne sur laquelle il faut que le placement de chacun soit juste.
D'ailleurs, j'ai une question sur ça. Un coach, pour moi, c'est juste un salarié de plus. Ça devrait être. Et dans certains clubs, effectivement, le coach, il a énormément de poids. Parfois même, il y a des politiques, il y a des politiques de clubs ou des projets de clubs qui reposent exclusivement sur l'entraîneur. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux ou pas, point d'interrogation?
Parce que c'est une question.
Et pas un commentaire.
Alors, je vais dire, il y a des projets de clubs qui reposent aussi essentiellement sur l'équipe première. Et c'est souvent la même chose, en fait.
Tu vises un club en particulier?
Je ne vise jamais personne.
Okay,
mais en effet, quand ton projet il est concentré uniquement sur l'équipe première, eh ben, tu vas donner les clés du camion au coach parce qu'en fait tu attends les résultats de l'équipe première. Alors, ça peut s'expliquer parfois. Moi, à un moment, quand j'étais au Red Star, quand on n'était pas encore au niveau pro, tu sais que tout dépend de monter de National en Ligue 2 pour être en Ligue 2, pour pouvoir créer ton centre de formation derrière et avoir un projet de club. Et que tant que t'es pas en Ligue 2, tu peux pas avoir de centre de formation. Donc en fait, tu peux faire un travail de formation, etc. Mais tous tes gamins, ils s'en vont. Donc je te dis pas que c'est bon ou mauvais. Mais à un moment, en effet, si tu te concentres uniquement sur l'équipe première, eh ben, tu fais du court-termiste qui fait qu'une saison, ça peut marcher parce que t'as eu de la chance au recrutement et plutôt que d'avoir un échec sur deux, eh ben, t'as 3 réussites sur 4. Mais l'année d'après, ça peut ne pas marcher. Donc c'est surtout lié à ça. Après, sur la question du coach, qui le recrute? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le DS? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est tout le monde? Et sur quels critères? Souvent, moi, je suis assez étonné. Je me rappelle d'un club, ils font une petite shortlist de coachs. Tu avais deux pistes. Tu avais Duprat et tu avais Lionel Rouxel. Les deux, je pense vraiment qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais rien à voir. Et je ne te dis pas en bien ou en mal. Il y en a un qui est posé, qui est formateur, qui a travaillé avec les jeunes à la Fédé, etc. Et t'en as un autre qui est une grande gueule, super motivé, qui va booster ses équipes. Mais à un moment, tu te dis, en fait, c'était quoi votre critère de recherche?
Comment, au final,
vous pouvez arriver sur un choix entre Rouxel et Duprat? C'est juste pas possible. Donc à un moment, il faut être capable d'identifier les critères. Qu'est-ce que tu veux comme coach? C'est quoi ta philosophie de club?
Exactement.
Pour choisir ton coach qui va être en harmonie avec ce que tu essaies de construire. Et souvent, en fait, tu te rends compte, souvent, tu vois les listes de coachs sortir et tu vois pas du tout de fil conducteur.
Et est-ce que ça, d'une certaine manière, c'est aussi au DG d'apporter la rationalité dans le projet? Parce que tu as peut-être le président dont c'est l'argent ou pas, ou qui est mandaté par des gens dont c'est l'argent, qui développe un projet drivé par une forme de passion, une forme de vision. Tu as le DS qui a ses relations avec certains agents, qui a la réalité du marché sportif, mais qui est potentiellement pas drivé par quelque chose de très construit. Est-ce que le DG, il est aussi là pour faire le grand écart et dire, ok, toi, tu veux ça, toi, tu as ces relations-là ou tu as ces possibilités-là, voilà comment on le construit.
Théoriquement, un bon DG, il est un peu plus dans l'ombre. Et quand tu restes dans l'ombre, tu gardes de la lucidité.
Ouais.
En fait, le plus difficile dans un club de foot, c'est réussir à rester lucide, à ne pas être attrapé par les émotions du quotidien, par l'adrénaline du quotidien.
Comment tu faisais, toi, au Red Star?
Moi, j'étais très mauvaise là-dessus.
Tu étais pris au jeu direct
Ouais, vous allez couper au montage, mais moi je fumais un paquet de clopes par match. J'étais super stressée, je dormais pas la nuit. Faut remettre en perspective, je suis arrivée, j'avais 25 ans, j'ai grandi avec le club, il était en CFA2, il est monté jusqu'en Ligue 2, aux portes de la Ligue 1. J'y ai mis un affect démesuré, mais ça m'a certainement fait faire des erreurs.
Alternative Football.
Bien sûr, quand le coup d'envoi est donné, on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est à peu près schématique. Okay.
Sauf lui.
C'est sur le terrain. Mais en fait, moi, je suis assez persuadée du fait qu'un résultat sur le terrain, c'est 99% de travail des joueurs, mais 1% de travail de tout le monde.
Bien sûr.
Et en effet,
Quand on est sur le terrain, tu parles d'un match de foot?
Le résultat d'un match de foot. Ouais. Je veux dire, à un moment, en effet, que l'intendant ait bien fait le taf, qu'il manque pas les chaussettes, qu'il manque pas les gants, que ça soit bien propre, bien plié, que la secrétaire, elle ait bien fait son taf, parce que les invites du joueur, sa maman, elle les ait bien récupérées, qu'elle appelle pas le joueur 15 minutes avant le match en disant « j'ai pas mes invitations, ça va jouer », que le gars de la presse, il va bien faire son taf et un joueur va pas être embêté s'il est pas dans un bon état d'esprit et qu'il veut pas être embêté. En fait, tous ces petits détails vont à un moment avoir une influence sur le résultat final. Ça veut dire qu'il faut quand même une grande période de concentration pour essayer de maîtriser un nombre incalculable de facteurs qui vont avoir leur petite dose. Et chacun au club, à chaque poste, va avoir une petite part du résultat dans le bon comme dans le mauvais. Bien choisir l'hôtel, bien choisir le car, arriver à l'heure, prévoir les embouteillages. C'est plein de petits sujets. Et là où on est bon, c'est qu'en effet, chacun doit comprendre que là où il va avoir un impact sur le résultat du match, c'est dans sa sphère d'activité. Et c'est pas en disant « Ah ouais, mais non, il faut pas faire jouer Edouard à ce poste, il est pas bon. » Non, c'est comment moi, dans mon travail, je vais tout faire au cordeau précisément pour qu'on mette les joueurs dans les meilleures conditions. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête tous les jours, du matin au soir et jusqu'au coup de sifflet final. Parce qu'à un moment, il va déchirer son maillot, il faut pas que ça prenne 10 minutes, etc. Donc même pendant le match, dans ta sphère d'activité, tu peux essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions.
Non, mais je pense que c'est un niveau d'exigence qui est...
Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Après, il y a aussi un lâcher-prise, parce que sinon, tu te fais envahir par des émotions. Et du coup, à un moment donné, les joueurs... Parce que nous, les joueurs, on est dans notre truc, mais on sent aussi si nos dirigeants ils sont détendus, pas détendus. Et parfois, il y a eu plein de fois où les dirigeants disent « Ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Mais tu vois dans leur tête que ça peut pas aller. Ça peut pas aller.
Ce qui est très important, dans la victoire comme dans la défaite, c'est la constance dans ton travail le lundi. Et c'est pas, on a gagné, tout le monde c'est le meilleur, je vais taper dans la main de tous les joueurs, bravo, t'es trop fort, etc., quel but. Et c'est pas, on a perdu, pff, vas-y, je fais la gueule à tout le monde, je parle à personne.
T'as parlé de la constance, c'est vrai, de l'attitude, que t'es gagné, ouais. Que t'es perdu, c'est un peu quelque chose de linéaire, tu vois. T'as gagné, t'es pas roi du pétrole, t'as perdu, c'est pas la fin du monde. Tu vois, on repart. Et ça, c'est pas évident, comme tu l'as dit. T'as perdu, tu as un derby, c'est super important, t'y as mis beaucoup de choses, t'es un peu déçu, mais tu dois masquer les choses. Une forme de schizophrénie, et tu dois toujours masquer les choses, enfin, tes sentiments, tes émotions. C'est pas évident. Je peux comprendre que t'es un petit peu fumé, alors, à ce moment-là.
Il y a un truc donc, dans lequel le boulot du DG est central, mais qui m'apparaît, et je pense qu'il apparaît à beaucoup comme étant quelque chose qui n'existe pas. Pas, c'est le club bien structuré. C'est justement cette charge émotionnelle que tu as dans les clubs de foot, l'omniprésence des médias, le fait que tu sois scruté. On a l'impression qu'un club bien structuré, en fait, c'est pas possible parce qu'il y a trop d'éléments à gérer. Est-ce que, selon toi, c'est possible de bien structurer un club ou est-ce que tu es toujours dans l'organisation du chaos à différents niveaux.
Il y a en fait un vrai point de vigilance pour une bonne structuration. C'est qu'en effet, à un moment ou à un autre, tout le monde est attiré par le terrain. Tout le monde est attiré par la lumière. Tout le monde est attiré par se rapprocher des joueurs. Et là, souvent, où ça dérive dans les clubs, moi, vous savez, la petite anecdote, je me rappelle, c'est à 8h05 avant le match, les joueurs vont sortir du vestiaire, ils vont aller dans les couloirs, puis t'as les caméras qui sont là, etc. Puis souvent, je voyais, il y avait plein de salariés du club qui, comme par hasard, à ce moment-là, tout le monde avait besoin d'être dans le couloir des vestiaires. Et les joueurs sortent, et vas-y que je te tape sur l'épaule, et vas-y que je te tape dans la main, et vas-y, ah ouais, toi tu vas marquer ce soir. Cette excitation d'être dans le moment qui précède l'entrée sur le terrain, où on se sent un peu joueur. Moi, je passais à 8h05, je faisais le ménage. Allez, tout le monde dehors, toi t'as pas à être ici, toi t'as pas à être ici, toi t'as pas à être ici. Et en effet, il faut comprendre que ta place, elle est pas sur le terrain. Ton travail au quotidien, c'est de mettre les gens qui sont sur le terrain dans les meilleures conditions, mais ta place, elle n'est pas là. Il faut que tu restes dans ton cœur d'activité. Et c'est vraiment un travail du quotidien, parce que souvent, tu dérives un petit peu pour te rapprocher des joueurs. Et puis les joueurs, ils en profitent aussi. Hein. Ils savent qu'ils peuvent avoir certaines choses.
Comme quoi? Bah, ça tente de le dire?
Non, je ne sais pas. Non, mais nous, c'est pareil. Dans tous les clubs où je suis passé, on faisait attention. Enfin, les gars, les directeurs sportifs faisaient attention à ce qu'il y ait pas trop. Nous, c'était l'extrême. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait même pas les gens de l'administratif. Je trouve que c'était too much.
Exactement.
Je trouve que c'est too much parce qu'on fait partie d'un club. Et même, ils nous faisaient. On était dans un vase clos. D'un autre côté, il ne fallait pas se mélanger. Même parfois, il y avait des blâmes pour les gens de l'administratif qui nous.
Ah, c'est incroyable.
Ouais, c'est too much.
Des blâmes.
Ouais, des blâmes. Ouais. Une anecdote, je suis à Marseille, j'ai une vieille amie que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et je décide de manger avec elle. On se pose et en fin de compte, elle me dit, là, t'es en train de me causer des problèmes. Bah, je dis, pourquoi? Non, mais parce que normalement, on n'a pas le droit. Je dis, bah, c'est bizarre, on bouffe tous ensemble, je vais pas bouffer d'un côté et vous laisser de là. Et on m'a fait comprendre que pour aujourd'hui, c'est cool, mais la prochaine fois, ce serait plus sympa, quoi, de pas vous mélanger. Pourquoi? Parce que si je déjeune avec mon ami, un autre va vouloir manger avec un autre, enfin, et c'est le bordel. Et je trouve que c'est too much.
Ouais, faut trouver le bon équilibre. Faut pas priver les administratifs, en effet, de partager des choses avec les joueurs, mais faut trouver le juste positionnement. Mais il y a beaucoup de choses hein, qui se font. Moi, je sais, c'est Marco Simone qui me racontait ça, par exemple. Alors, tout ne se fait pas avec l'argent, mais l'argent est un critère aussi important. Hein. Quand le Milan AC était champion d'Italie. Tout le monde touchait une prime.
Ouais.
Mais ça, c'est du joueur à la secrétaire.
Super important.
Pour
impliquer tout le monde.
Mais bien sûr. Parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice.
Tu disais, c'est pour nourrir 100%. C'est-à-dire pourquoi j'ai fait en sorte de... Parce que je suis incentivé sur le fait que si on gagne, on gagne tous ensemble et que j'y ai participé.
Mais donc voilà, il faut trouver ce bon équilibre entre rester à sa place, mais malgré tout pouvoir partager un certain nombre de choses avec le sportif, parce que si on bosse dans un club de foot, c'est qu'on adore ça, et qu'en effet, si tu le mets totalement à part avec cette opposition qui existe beaucoup, pour moi qui est néfaste, hein, sportive-administratif, où on mélange pas les gens, ils se parlent pas, ils se comprennent pas, je pense que c'est très mauvais aussi. Mais donc ce jeu d'équilibre, ça c'est un rôle important du DG, et c'est veiller au quotidien, mais ça c'est vrai dans toutes les boîtes, où chacun est bien dans sa sphère d'activité. Et puis à un moment, s'il n'est pas bien dans sa sphère d'activité et qu'il veut tout le temps déborder, va déborder ailleurs.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le sportif et l'administratif. Il y a beaucoup dans des clubs professionnels des doubles directions. Je pense au PSG, on dire que je pense toujours qu'au PSG, c'est pas faux.
Non, non, mais,
mais tu vois, t'as le côté qui est dirigé par Jean-Claude Blanc en qualité de DG, qui concerne tout ce qui est hors terrain et hors sportif, et t'as Leonardo. Sans parler du PSG particulièrement, c'est quoi ta vision, toi, sur ces doubles directions? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que dans certains clubs, ça, c'est approprié? Ou tu dois avoir quelque chose de très clair? Prez, DG, DS et les autres fonctions de direction. Édouard Cissé nous donne sa réponse en écartant les bras en disant « Bien sûr que c'est ça ».
Eh ben exactement. Ouais.
Moi, je suis assez d'accord, bien que tu peux avoir des DG qui n'ont pas d'appétence sportive particulière. Ouais. Donc, il faut savoir créer ta hiérarchie par rapport au DS. Aujourd'hui, moi dans mon cas, j'adore le football, je peux regarder un match, mais ouais. Je sais pas plus que n'importe quel supporter si celui-là, il est bon ou celui-là, il est mauvais. Enfin, je vais avoir un avis de supportrice, alors que c'est un savoir, ouais. Le football. Donc, il faut bien placer le football à un endroit. C'est un savoir. Alors, est-ce que c'est le directeur sportif? On pourrait en parler du rôle de directeur sportif, mais ouais. On va dériver. Aujourd'hui, on parle de directeur sportif, mais en fait, souvent, en France, c'est des directeurs du recrutement. Hein. C'est pas des directeurs de la politique sportive.
Exact, ça devrait être ça.
Aujourd'hui...
Je te coupe, je suis désolé, parce qu'il y a une précision relativement importante qu'on fait pas ici. En Angleterre, on les appelle beaucoup les directeurs du football. Rien que dans la nomenclature et dans le titre, ça change un petit peu la perspective, et les mecs, effectivement, ils sont responsables du recrutement, mais de la formation, de la manière dont tu joues, et d'un projet qui est beaucoup plus large.
Mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible de tout faire. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un directeur de la performance. On peut appeler ça directeur du football. Moi, je trouve ça toujours un peu bizarre, parce qu'on ne va pas l'appeler directeur de la natation dans un club de football.
Ouais.
Mais à un moment, pour moi, il y a un directeur de la performance sportive, mais qui n'est pas que la performance de préparation physique hein, ou athlétique. Hein. C'est une vraie question de performance, de formation, qui prend la préparation mentale, qui prend toute la préparation invisible, qui prend la préparation physique, qui devrait être l'élément clé du choix du coach, parce que c'est lui qui porte le projet sportif du club. Et derrière, il peut avoir un directeur de recrutement à l'intérieur, qui va en effet s'adapter à la politique sportive. Mais il manque bien une pièce. Et donc moi, le binôme ne me dérange pas. Si t'as un directeur de la politique sportive, un directeur de la performance sportive et ton directeur général qui maîtrise les finances. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, on crée ce poste de directeur sportif qui, pour moi, n'en est pas un, qui est forcément en opposition avec le coach. Parce qu'à un moment, ce directeur sportif, c'est un directeur du recrutement. Donc, s'il n'y a pas de résultat, il va dire que c'est la faute du coach. Et le coach va dire que s'il n'y a pas de résultat, il va dire que c'est la faute des recrutements du directeur sportif. Donc là, on a une vraie problématique. Et elle est plus là, la problématique que je vois au PSG, puisque tu en parles. Tandis que si tu avais un directeur de la performance qui chapeaute tout ça, ben on aurait un autre avis. Et lui peut être en binôme avec le DG.
Et il peut trancher, donner la direction, et ça s'aligne en dessous.
Ouais, et puis surtout, un directeur sportif, entre guillemets, il devrait donc, il s'occuperait du coup de la formation aussi. La formation, qu'est-ce qu'on met en place au niveau des jeunes?
Bien sûr.
Leonardo, on lui dit, c'est un directeur du recrutement. Directeur du recrutement, vend ses joueurs, rachète des nouveaux joueurs, mais il s'occupe pas de la politique sportive du club. Et c'est ça. Et moi, je trouve que c'est la limite de Paris.
Et
il y a rien de pire pour tuer un projet club d'aller recruter à l'extérieur un joueur qui est moins bon que le petit que t'as au club. Il y a rien de pire. Ça, si tu veux tuer un projet club, bah tu fais ça.
Ouais. Oui, exactement.
Surtout tu rajoutes la complexité aussi du football, t'en as parlé un petit peu Pauline, c'est aussi la réalité des relations avec les agents et avec qui tu t'entends, avec qui tu t'entends pas, avec qui tu veux faire des deals parce qu'ils sont intéressants dans le projet un peu plus global. Mais bon, ça c'est un vaste sujet qu'on aura l'occasion de traiter par ailleurs. Il y a une question qui m'intéresse particulièrement. On a l'impression qu'en fait il y a potentiellement plein de métiers dans le métier de DG. C'est quoi le truc le plus important?
Ne pas avoir envie de se faire aimer.
Attends que ça, c'est vrai, j'ai l'impression que tu dis ça, ouais. Et tout à l'heure, t'as dit que tu disais toujours non. Et
bah ouais,
ça te
parce que c'est ton rôle. C'est
pas que ça.
Non, mais si tu cherches à te faire aimer, tu feras pas bien ton travail.
Donc c'est prérequis.
Ça veut pas dire qu'il faut pas savoir se faire respecter, etc.
Ouais.
Mais en effet, c'est difficile parce que c'est toi qui tiens les finances du club, c'est toi qui essaie de tenir l'organisation, et c'est en effet parfois dire à quelqu'un non, c'est pas ta place d'être en bord terrain à cette heure-là.
Ah, d'accord, par rapport à ça.
Et en effet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la police. C'est comme partout, et malgré tout, on est dans un univers où il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'affect, et oui, c'est sympa d'être en bord terrain avec ta petite pancarte, etc. Et en effet, il ne faut pas vouloir se faire aimer, il faut essayer de garder de la lucidité, je pense. Et ça ne veut pas dire que tu ne te feras pas aimer, hein. C'est souvent comme ça que ça arrive. Hein.
Ouais.
Mais puis après, je pense qu'il faut quand même avoir des solides compétences juridiques.
D'accord.
Financière.
Donc le
juridique ou financière? Juridique et financière.
Juridique et financière.
Tu lisais tous les contrats, c'est toi? Ou alors t'avais un avocat à côté?
On avait un juriste, mais...
Mais t'as besoin de les comprendre.
Ouais, tu sais, ça se joue parfois à des virgules. Alors, la prime de montée en cas d'accession sportive et non administrative.
Ça
se joue à la virgule. Bonne compétence juridique et financière. Et je pense qu'il faut, même si je te dis ne pas se faire aimer, attention, il ne faut pas se méprendre, je pense qu'il faut avoir une grande capacité de compréhension humaine. Il faut comprendre l'humain. Il faut une bonne humanité, une bonne bienveillance. Ça ne veut pas dire que tu cherches à te faire aimer, mais il faut comprendre l'humain. Parce qu'en fait, on touche bien plus que dans n'importe quelle entreprise à l'émotion. Donc, il faut avoir une sensibilité, une fibre humaine importante.
Mais à la fin, il faut que tu prennes la discussion qui est juste pour le club et pour la politique que tu mets en place. Et ça veut dire parfois contrarier un tel, le joueur, le président. Et c'est effectivement, je pense, la difficulté. Mais c'est créer un repère. C'est un monde où il y a relativement peu de repères, pas à cause de toutes les influences dont on a parlé. Donc, être ce point de focus pour pouvoir faire ça.
Alternative football. Alternative football.
Et donc la formation, c'est-à-dire que pas la formation des joueurs, mais ta formation à toi et la formation des gens qui auraient envie d'être DG. C'est donc tu nous as parlé du juridique et du financier. Qu'est-ce que tu conseilles toi, le chemin si quelqu'un veut y arriver?
Je pense qu'une formation pluridisciplinaire, elle est importante.
Voilà. Toi, t'as fait Sciences Po, hein?
Ouais. Et après une école de commerce.
Ouais.
Bon, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même aussi
Et quand tu fais ton cursus scolaire, tu voulais être DG? Tu voulais travailler dans un club?
Non, je voulais faire journaliste.
Donc voilà,
c'est tes premières expériences, je crois que c'est dans le journaliste, si je ne me trompe pas.
Ouais, j'étais un peu pigiste.
Ouais, voilà, donc c'est pour ça que Sciences Po et école de commerce, c'est peut-être pas nécessaire pour arriver à un poste de DG dans un club. C'est quoi ton lien que tu avais avec le foot, avec le sport?
Attends, on n'a pas répondu à ma question.
C'est vrai, excuse-moi.
C'était quoi la question?
la formation, pas tellement conseillée, mais selon toi la plus appropriée, parce qu'on a parlé juridique et financier, donc est-ce que c'est effectivement quelque chose d'assez général et ensuite tu te spécialises via l'école de commerce qui te donne des compétences un peu plus techniques, ou est-ce que tu penses qu'en fait c'est beaucoup plus vaste que ça et,
Non,
y a
tu
pas
peux
de...
faire du droit, tu peux faire beaucoup de choses. Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne force de travail, donc j'aurais toujours tendance à plutôt privilégier des écoles qui t'apprennent à travailler. On apprend à l'école à travailler. Ce que j'ai appris à Sciences Po, c'est je me rappelle pas du contenu, mais ce que je me rappelle, c'est la force de travail.
Des méthodes.
La capacité d'être derrière un ordi de 8h à 22h le soir.
Et d'être concentré.
D'être concentré, c'est ça qui est dur, c'est ça que tu apprends à l'école. Une fois que tu as une vraie force de travail et une certaine pluridisciplinarité, je pense qu'il faut être un peu transversal, tu peux être DG, mais il faut bosser.
Après, pour répondre à ta question, le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges a créé une formation comme ça, manager général.
Ok.
Tu vois, où pendant 18 mois. C'est celle que j'ai suivie en fin de compte. Voilà, je fais un peu de pub pour le CDES. D'autopromo. Non, mais en fin de compte, c'est pour un peu plus répondre à ta question et pour donner des billes aux auditeurs. Et donc, ce qu'ils t'apprennent, c'est vraiment le positionnement d'un manager général et toutes les notions pendant 18 mois de juridique, marketing, communication, finance. C'est que des notions, tu me diras. Mais c'est intéressant. Pendant 18 mois, tu as des séminaires comme ça. Et puis du management aussi. Management des skills, tu vois, l'humain. Après, c'est vrai qu'effectivement, bosser, être dans une école...
Mais d'ailleurs, le meilleur truc, c'est... Tous les clubs, ils sont à la recherche de bénévoles. Ouais. Les jeunes qui veulent aller bosser et qui rêvent de bosser dans le foot, vous prenez vos week-ends, vous allez dans le bénévolat, vous allez voir la réalité. Vous commencez, moi, le team manager du Red Star, aujourd'hui, il a commencé en étant bénévole à la buvette. Donc, à un moment, il faut aussi se cogner à la réalité du terrain. Et tous les clubs sont à la recherche de bénévoles. Ouais. Allez-y, si vous voulez bosser dans le foot, ça commence par là.
Et je suis très heureux que tu aies ça, parce qu'il m'arrive de donner quelques cours en école de commerce et je pense que tu as entre guillemets la chance dans le sport de pouvoir te frotter à l'industrie rapidement parce qu'il y a la recherche de bénévoles sur l'organisation des matchs, sur les events, il y a plein de raisons de pouvoir être en contact avec un club et c'est comme ça que tu apprends. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est essentiel que ceux qui veulent travailler dans ce métier-là le sachent et l'appliquent. Du coup, tu avais une question pour Pauline. Comment tu arrives au foot, c'est ça?
Ouais, ton lien avec le foot.
Moi, d'aussi petite que je me rappelle, j'adore le foot. des photos de moi avec un ballon dans les pieds, okay. petite, sans trop qu'on sache pourquoi. Moi, je suis d'une famille de 5 filles, donc c'était un peu le mystère. Je suis marseillaise, on est quand même dans une ville qui baigne dans le football et dont l'humeur de la ville est fortement impactée par les résultats du week-end. Mais voilà, j'ai toujours adoré ça. Je pensais pas y travailler, mais j'ai toujours adoré ça.
Ça m'intéresse le côté, je veux le journalisme, j'ai envie d'être journaliste sportif. Et je bascule du côté business. Ça m'intéresse de manière très égocentrique. C'est parce que ça a été un peu ma réflexion perso. C'est que j'ai commencé par des stages, un stage à France Football notamment. Et j'ai très vite basculé sur le côté plus industrie, plus business. Cette transition, elle se fait comment? C'est parce que tu ne trouves pas dans le journalisme ce que tu...
Ouais, plein de rencontres. La vie, elle est faite de rencontres. Mais en fait, je voulais être journaliste, pas forcément sportive. J'adorais François Giroud, c'était mon modèle, c'était mon idole. Ouais. Et puis, tu te rends compte que le journalisme de combat, la François Giroud, à part si tu fais 30 ans dans la rubrique des chiens écrasés, peut-être qu'un jour, t'auras un grand reportage, ouais. mais j'avais pas 30 ans.
C'est un peu long.
Voilà, c'était un peu long. Quand t'as 20 ans, tu te dis, bon, je veux quelque chose de plus rapide. Et j'ai retrouvé ça dans le documentaire. Et tu rebondis, d'abord t'es dans une boîte de prod et puis j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Haddad qui détenait non seulement une boîte de prod mais aussi un club de foot. Et donc c'était un peu à la fois ma passion et ma vocation qui se retrouvaient au même endroit.
Avant d'arriver à ce poste-là, t'as quand même touché à plusieurs choses, notamment t'as bossé du côté tech aussi, ce qui est important dans le développement d'un club. Et pour continuer un petit peu sur ton parcours et ce que t'as fait, fast forward, après le Red Star, tu pars à la Fédé. Qu'est-ce que tu retrouves en termes de fonctionnement dans ton rôle à la Fédé vis-à-vis du club? En quoi l'institution est différente du club?
Ça n'a rien à voir. Moi, quand je quitte le Red Star, j'ai manqué de recul, j'étais épuisé à un moment, les émotions...
C'était un besoin? Là, il fallait que tu coupes?
Oh, ouais, j'étais claqué.
Ouais.
C'est chronophage, énergivore, chronophage. Je pense que la frontière entre vie privée et vie perso, vie pro, vie perso, c'est... compliqué, et donc c'est un peu ça, c'est la lassitude.
J'étais claqué, et puis le Red Star, c'était pas facile. En plus, à un moment, c'est fatigant de vérifier les factures de trombone pour voir si vraiment on a besoin de trombone. Quoi.
Je sais plus qui disait que DG, en fait, tout le monde pense que tu gères des transferts de cela, mais en fait, t'achètes aussi le PQ.
C'est sûr.
Ouais. Tout dépend de où t'es DG, mais t'as des emmerdes. Quand je dis emmerdes, il faut gérer pas mal de problèmes.
Il y a un autre point au-delà de ça et de la fatigue, c'est que c'est très difficile en club de travailler sur des projets à moyen et long terme. T'es toujours sur du court terme, sur le résultat du match, sur la fin de saison. Et c'est très difficile de se projeter sur des projets à long terme. Et moi, j'arrivais à un moment où je me disais, ça me ferait du bien de voir autre chose, de voir un rythme un peu différent. C'est vrai que la fédération, c'est un confort absolu. Hein. Ils ont une visibilité sur les budgets à 4 ans. Hein. T'as peu de boîtes dans le monde où, grosso modo, tu connais à 95% ton budget sur 4 ans.
Je reviens, si tu me le permets, sur notre mythe réalité qu'on avait évoqué au départ. J'imagine que quand tu arrives au Red Star, tu te dis... Alors, tu commences pas tout de suite DG, si je me trompe pas.
Non, le club est en CFA2, il n'y
a pas de DG.
Mais
donc, quand tu accèdes à ce poste-là, la plus grosse différence entre ce que tu avais en tête avant de commencer en tant que DG et l'expérience que tu as vécue au final, c'est quoi?
Je ne vais pas vraiment avoir de réponse là-dessus parce que moi, en fait, le poste, il s'est dessiné petit à petit. Il n'y avait personne au poste, le poste n'existait pas. J'ai grandi avec le club. En fait, petit à petit, je prenais de plus en plus de dossiers et à un moment ou à un autre, on est en national, on lui donne l'étiquette de DG parce que c'est ce qu'elle fait en fait aujourd'hui.
J'allais te demander à quel moment. Donc, c'est une fois que le club est installé en national. À la montée en national.
Ouais.
D'accord.
Et en vrai, pour moi, ça a changé pas grand-chose. Ça a facilité mon travail parce qu'on est quand même dans un milieu d'étiquette. Et quand t'arrives pour négocier un salaire avec un joueur ou négocier avec une mairie ou avec un sponsor, c'est plus simple de se présenter en disant bonjour, Pauline, je suis ADG du club, que de dire oui, bonjour, Pauline, je travaille au club. Voilà, donc c'était plus simple, quoi.
Dans la structuration de ce métier-là, qu'est-ce qui t'est apparu le plus important? Quelle est la première chose quand le poste s'est créé? Tu dis, ok, aujourd'hui, on se dirige vers une structure qui est professionnelle, on va aller plus loin. La chose que je veux mettre en place en premier, c'est celle-là.
Une des premières choses, c'était le recrutement des équipes. Pas sur le terrain, non, recrutement des équipes au bureau. Okay. Parce qu'en effet, on était, quand on est arrivé, je ne sais pas, il devait avoir... 2-3 salariés hors sportifs. Hein. Donc en fait, il faut recruter. C'est vraiment le modèle d'une start-up, pour le coup. Hein. Moi, je l'avais connu chez Dailymotion, parce que j'étais arrivé chez Daily, on était 15. Je suis parti un an et demi après, on était 165. Ouais. Hein. Donc j'avais vu cette évolution-là, j'avais vu les difficultés aussi. Donc en fait, tu crées ton équipe, tu la forges avec tes valeurs de solidarité, parce que c'est bien beau de dire on veut que les joueurs sur le terrain ils soient solidaires. Si tu montes pas l'exemple dans les bureaux, c'est la meilleure des choses pour que ça plante sur le terrain aussi. Hein.
Mais tu vas la chercher comment ton équipe? T'avais du dans ton réseau ou
LinkedIn? C'est sûr qu'on reçoit beaucoup de CV quand tu bosses dans un club de foot. T'es ouais. aspergé de CV même quand t'es le Red Star.
Okay.
Moi c'était beaucoup de sorties d'école. Plutôt voilà, beaucoup de sorties de Sciences Po, des écoles de commerce, un peu de tout, beaucoup de sorties d'école. Je tombe sur des jeunes assez enthousiastes, fantastiques, malins, travailleurs, impliqués. Et donc, ils grandissent avec le club aussi. Hein. Souvent, ils ont tous commencé en stage, puis en CDD, puis en CDI. Et ce qui est super difficile, c'est quand tu grandis avec une équipe qui te suit, c'est de rajouter au fur et à mesure des pièces. Ouais. C'est pareil sur un terrain. Hein. Mais à un moment, tu as une équipe qui fonctionne bien de 10 personnes et puis il va falloir que tu rajoutes une personne. Il ne faut pas que ça déstabilise l'ensemble de ton groupe, qui est très soudé. Donc un des points importants sur lequel je mettais beaucoup d'attention, parce que pour que ça roule, ce que tu disais, hein, il faut déléguer, mais pour que ça roule, il faut vraiment que chacun à sa place soit au taquet et comprenne qu'en fait, ton collègue, s'il a une galère, il faut aller l'aider. Plutôt que l'enfoncer en espérant prendre un petit peu plus de pouvoir, créer cette solidarité-là, créer ce cercle vertueux dans les bureaux, ça c'était vraiment, surtout dans une période de croissance où tu as du coup énormément de travail parce que tu es tout le temps sous-staffé en fait, plus tu montes, hein, tu montes de CFA en CFA2, de CFA en National, National en Ligue 2, tu es tout le temps en sous-staff, donc tu demandes beaucoup aux salariés. Et il faut recruter avec intelligence pour garder la dynamique globale.
Le scaling que tu avais vécu chez Dailymotion, tu m'as dit qu'il sert vachement du coup quand tu arrives au
exactement,
restart.
C'est la même chose. Ouais. La seule différence, c'est que tu es une start-up de 120 ans et qu'il faut respecter l'histoire.
Une start-up de 120 ans, c'est il n'y a que dans le foot.
Donc, ça,
toi, tu l'as vécu, c'est-à-dire que ce dont Pauline nous parle, la culture d'entreprise, de club qui est similaire entre les bureaux et le terrain, toi, c'est des trucs que tu as vécu.
C'est quelque chose que j'ai vécu, oui, en tout cas, où j'ai fait pas mal de choses pour changer un petit peu, contribuer au changement de la culture.
Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi.
Non, c'est pas ça, c'est quand tu arrives. Mais tout simplement, faire le parallèle. Moi, je disais tout simplement, à partir du moment où vous voulez qu'on soit solidaire sur le terrain, dans le côté sportif, ce serait plus sympa que vous soyez aussi dans l'administratif. Et quand dans l'administratif, tu t'entends que tu vois qu'il y a des luttes de pouvoir entre le DS, le DG ou quoi que ce soit, ou des directeurs marketing qui veulent être sur la photo ou qui est tout le temps là, ou comme tu le dis, en bas ou dans le carré. J'ai vendu un truc là. Dans le carré. Bah, il faut pas s'étonner pourquoi sur le terrain, il y a des joueurs qui sont pas solidaires.
Tu as déjà eu des joueurs qui viennent te voir, mais pas pour parler salaire, pas pour parler prime, mais qui viennent te voir en disant « Moi, j'ai envie d'être plus impliqué dans la vie du club. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider ?» Est-ce que c'est déjà arrivé? Ou si ça t'est pas arrivé à toi, est-ce que tu as des exemples? Parce que là, Edouard nous parle de son implication dans des choses qui vont au-delà du terrain. C'est des choses que tu as vécues?
Oui, je pense qu'on a en effet, notamment parce qu'on était un club qui grandissait d'étape en étape. Et donc souvent, pour continuer à progresser, tu vas chercher des joueurs au-dessus. Qui ont connu le niveau du dessus, c'est souvent des détails qui n'en sont pas en fait. Ça va être un conseil d'organiser un petit déjeuner parce que ça permet de souder un petit peu l'équipe, de s'assurer aussi que tout le monde prend le petit déjeuner. On sait que chez les jeunes joueurs, c'est important pour éviter les blessures.
Ouais.
Ça peut être les primes aussi, tu sais, c'est pas grave hein, parfois les primes. Moi, il y a des joueurs qui venaient me voir et qui me disaient écoute, on est un peu dans le dur. Je sens qu'il y a de la fatigue, etc. Peut-être si tu pouvais mettre un petit challenge, ça permettrait de remobiliser tout le monde ou ça va nous aider, nous, un petit peu les cadres, à remobiliser tout le monde.
Et là, tu disais non.
Non, mais alors,
c'est quoi là, on disait
on va faire un petit déj.
Donc, c'est souvent, en effet, il faut avoir mais c'est souvent des discussions assez informelles. Ouais. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il faut être capable d'être à l'écoute aussi quand t'es DG, de sentir les gens, etc. et de savoir dire oui quand en effet c'est le bon moment, c'est la petite chose qui permet de t'améliorer. Oui, ça arrive, faut les écouter. Faut pas du tout croire que les joueurs ils sont bêtes égoïstes et égocentriques.
Parle-en Pauline.
Là, je viens de mettre un sourire sur le visage d'Edouard, tu sais.
Alors mais déjà quand je négocie les primes avec eux, ils ont tous fait maths sup maths spé. Ça je te le dis. Ils ont une capacité de calcul.
Calcul mental, c'est vrai. Il devrait y avoir calcul mental dans FIFA.
Comme quoi. Ils ont un master de finance, ils savent tout.
Ils connaissent très bien, ils savent, le discours que toi tu portes sur en effet ce côté miroir, terrain, bureau, moi, ça me ravit de l'entendre, j'en suis persuadé. Ils sentent les choses, ils comprennent tout, soit ils en jouent. Soit ils jouent pour toi. C'est l'un ou c'est l'autre, mais ils sont très très intelligents, la majorité.
On en est convaincu, d'autant qu'on en a un bel exemple avec nous. Mais je pense effectivement c'est important de le rappeler parce que l'opinion publique, malheureusement, que ce soit des footballeurs ou les sportifs en général, on a en général une vision un peu différente.
Ouais, mais ça change.
Les autres DG. Donc quand je dis les autres DG. Théo Red Star, les DG de Ligue 2, les DG de Ligue 1, les DG à l'étranger. Il y a des relations. Est-ce que tu travailles pour apprendre, tu partages pour leur apprendre? Est-ce que tu as le temps de faire ça quand tu es DG? Ou c'est quelque chose qui est très occasionnel et opportun parce que vous croisez un dîner? Est-ce que c'est un milieu où il y a de l'échange?
Il y a quelques réunions organisées par la Ligue. Il y a des amitiés qui se créent entre certains DG, même si on est dans un univers qui reste concurrentiel.
C'est comme les présidents aussi, vous jaugez un peu. Il y a un peu, je suis le DG de ce club-là, toi t'es ce DG-là, il y a de l'ego.
Oui, je pense qu'en effet, quand t'es DG du Red Star, t'as pas le tapis rouge par les DG de Ligue 1 au moment où t'arrives à la réunion. Il faut être clair. Même si, encore une fois, on en parlait, vu qu'il y a beaucoup de DG différents qui n'ont pas les mêmes fonctions, c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Et puis à certaines réunions, tu vas avoir une réunion plus market. Parfois, il y aura dans un club, ils envoient le DG, dans un autre club, ils envoient le directeur marketing, dans un autre club, ils envoient le team manager, tu sais pas pourquoi, mais parce qu'il n'y a personne en place. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des échanges de bonnes pratiques au-delà des amitiés occasionnelles qui peuvent se faire entre certains DG? Non, je crois pas.
Est-ce que tu as un DG que tu pas que tu...
Tu allais dire admire, mais t'as pas envie de dire admire.
Ouais, tu peux pas admirer un DG, mais est-ce qu'il y a un DG que t'aimes bien?
Des gens brillants, si vous voulez, mais pas forcément sur le poste de DG. J'en ai rencontré à d'autres postes, quoi.
Ouais.
Grégory Dupont, avec qui j'ai bossé à la Fédération Française de Football, c'est le mec le plus brillant que j'ai rencontré. Et il m'a fait comprendre une chose, c'est que le football, c'est un savoir.
Si tu peux rappeler aux auditeurs le rôle de Dupont,
c'était le préparateur physique des Bleus pendant la Coupe du Monde en Russie, champion du monde, directeur de la performance de la Fédération française de football, qui a été champion de France avec le LOSC, champion d'Écosse avec le Celtic, champion d'Espagne avec le Real de Madrid, donc qui a un CV exceptionnel, mais qui va te dire en effet une chose, le football, c'est un savoir. Et quand tu as compris ça, et ben en fait, de savoir si Pierre-Paul Jacques il est meilleur que Henri ou Thomas, et ben en fait, tu sais que c'est pas ta question. Et que tu restes dans ton domaine d'activité et que tu laisses aux sachants la gestion du terrain. Et ça, c'est important. J'ai rencontré plein d'autres personnes. Moi, je me rappelle d'une avocate qui s'appelle Patricia Moyersen.
Ouais.
Elle m'avait dit, allez jamais au conflit avec les arbitres, parce que ce qu'on accepte aux forts, on ne l'accepte pas aux petits. Et en effet, peut-être qu'un Jean-Michel Aulas il peut crier sur les arbitres, mais ça sera jamais le cas d'un Patrice Haddad au Red Star, parce qu'en effet on prendra le bâton pour se faire battre si en effet en étant petit tu critiques les instances. C'est plein de petits détails du quotidien comme cela, quoi.
Tu en parlais de politique et de football, ça c'est de la politique. C'est un très bon exemple. Une question qu'on a dû te poser mille fois, il y a peu de femmes dans des postes à responsabilité dans le football.
Question que je préfère.
Ah bah oui, mais c'est pour ça que je sais qu'on t'a beaucoup gonflé avec, mais ça nous intéresse quand même de comprendre ça. Je crois que au poste de DG, vous étiez deux. Il y avait toi, Restart, et Ames,
Hélène.
C'est quoi ton regard sur le truc?
Moi, ma vraie problématique, ce sur quoi je me suis parfois concentrée, c'était non pas d'être une femme, c'était d'être jeune. Parce que je suis arrivée, je pense que je suis nommée au poste de DG, j'ai 28 ans. Ouais. Et pour moi, ça, c'était plus difficile de gagner en légitimité, en crédibilité quand t'as 28 ans. Après, j'avais la chance, moi, d'être dans un club comme le Red Star, où j'ai jamais senti de misogynie, de sexisme. Mmh. Déjà, peut-être parce qu'on est sur un territoire où, si on commence à se coller des étiquettes, on en a tous une. Donc, on évitait de le faire dans ce club-là. J'ai jamais, en club, eu un ressenti difficile par rapport à ça. Okay. C'était plus difficile l'âge, parce qu'en effet, il faut justifier de ta légitimité au poste.
En gros, tu sors de l'œuf, t'as rien à nous apprendre. Ouais. Et ça, c'est
et puis, il faut que des personnes de 40 ans, elles acceptent aussi d'être managées par des personnes de 28, et c'est pas toujours facile, que ce soit une femme ou un homme. Hein.
Demain, on te donne carte blanche sur la structuration d'un club. Le club de ton choix. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais?
La première chose, c'est de réunir l'équipe de senior management. C'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Ton projet, à un moment, il fonctionne si, au top poste, il y a une vraie équipe. Après, derrière, ça déroule. C'est prendre ce directeur, appelez comme vous voulez, du football, de la performance, de la politique sportive, qui va porter le projet sportif. Toi, tu vas faire que mettre les meilleures conditions pour les mettre en place. C'est avoir une équipe de 4-5 personnes, que j'ai un peu en tête déjà.
Structure légère, toi.
Sur le senior management, le senior management, ouais.
Et puis de manière générale, après, il y a des avis différents, mais je pense qu'à manager toi en tant que patron, plus de 4-5 personnes, tu ne travailles plus. Tu ne fais que du management, toi, de là ça. Donc, tu as aussi le fait de pouvoir, d'avoir dans ton management le temps et l'espace cerveau pour manager.
Je vais répondre à une problématique. C'est que je pense en effet que tu as peu de personnes au senior management, mais que tout le monde doit avoir le droit de parler. C'est-à-dire que moi, c'est très important que ça m'est égal de savoir qui est N-1, N-2, N-3, N-4. Je ne veux pas une structure pyramidale, très structurée. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait que ça faisait les grandes heures de Canal+, n'importe qui, même le stagiaire qui venait d'arriver, il pouvait donner son idée, et si elle était bonne, elle était suivie. Mmh. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait la liberté de parole, sans frustration sur les étages. Moi, j'aime pas ces étages pyramidaux. Mais par contre, il faut que tes décisions, ton comité stratégique, ton comité d'essage, ton senior management, qu'ils soient assez restreints, avec des personnes très solidaires, chacun très bien dans son territoire, et qui ne va pas empiéter sur le territoire de l'autre. Pas de lutte d'ego, pas de lutte de pouvoir, pas de lutte de territoire.
Alors, c'est quoi d'autre? Non, ton senior management, alors il y a qui d'autre comme poste? C'est quoi les postes?
C'est donc directeur de la perf, il faut une personne au recrutement, une personne au business dev, parce qu'il faut un...
Donc c'est marketing, communication.
Il faut générer des revenus.
Ouais, on appelle ça match day, enfin ce que tu veux, mais...
Ouais. Générer des revenus.
Source de revenus. Je pense qu'il faut un top gars juridique finance. Et si là, t'as 5 personnes, t'es bien quoi. Okay. Et un bon gars pour le stade. Pour gérer le stade, selon tout un bon club, il peut organiser des concerts, organiser des spectacles, organiser les matchs. Il faut un gars un peu dédié, c'est spécifique.
C'est vrai qu'on a fait un focus sur toi en tant que DG, la relation que tu pouvais avoir avec les gens un petit peu en dessous entre guillemets. Et avec le président, comment ça se passe?
Moi, il y a un point qui a été, je pense, la clé du succès sur les années au Red Star. C'était en effet, notamment parce que j'étais jeune et peut-être aussi parce que j'étais une femme, pour le coup, ne jamais être contredite par ton président. Si tu dis non à un moment, à quelque chose, et bien que derrière, le président dise « Ah bah si, on fait », parce que tu perds toute légitimité, toute crédibilité dans tes décisions. Moi, je pense que le président, il a un rôle majeur. Parce que c'est lui qui est avant tout respecté par les joueurs. C'est un poste important. Alors c'est particulier. On est dans une des dernières structures où on appelle le chef président. Enfin aujourd'hui, tu vas croiser le patron du CAC 40 dans les couloirs, tu lui dis pas bonjour président. Hein. Donc on est quand même dans un schéma extrêmement particulier. C'est compliqué aujourd'hui parce que t'as à la fois des présidents actionnaires et des présidents délégués. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Aujourd'hui, un président délégué, c'est plutôt un DG. Hein.
C'est ça.
Donc, c'est un DG qui va parfois chercher un DG, qui va parfois chercher un DGA, qui sait pas trop, en fait. Il y a une vraie complexité à gérer, en tout cas, parce que en effet, tu vois pas trop comment se fait la double casquette président délégué DG. Enfin, moi, je particulier, quoi. Ouais. À part s'il est très 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 sportif, tu vas prendre un. Un piqueux, il est peut-être très sportif, il peut prendre un DG avec lui. Un Nicolas Hoelweg, il va moins prendre un DG avec lui parce qu'il va déjà faire le taf.
Ouais, il fait le taf.
Après, les présidents actionnaires sont tous très particuliers. Il y a les fonds d'investissement. Il y a quand même, aujourd'hui, on est vraiment dans une refonte. Ouais, le président de demain, j'ai du mal à imaginer exactement quel sera son profil.
Dernière question, parce que Monsieur Marchand m'a fait son signe habituel en passant sa main devant son cou. Est-ce que pour un DG, l'objectif, c'est de devenir président ?
Oh non, pas du tout. non, pas du tout. Faut peut-être un peu plus aimer la lumière.
Ouais.
Moi, je pense que c'est des métiers qui sont très différents.
C'est les mêmes emmerdes, hein, ou pas ?
C'est les mêmes emmerdes.
C'est juste le regard des autres sur les emmerdes et le nombre de yeux qui te regardent. Alors, fausse alerte, parce que Maxime Marchand me demande de poser une dernière question pour revenir à la question de base. C'est vrai que c'est un peu notre tradition. Je manque à mes obligations. En forme de conclusion, quelle est donc la plus grosse différence entre ce que les gens peuvent avoir en tête quand tu leur disais que tu étais DG et ce que tu vivais ?
Ils pensent que 90% de ton activité tourne autour du match, alors qu'en fait 99% de ton activité ne tourne pas autour du match.
C'est une belle conclusion.
Ouais, c'est clair.
Pauline, merci beaucoup. On a passé un super moment. Monsieur Cissé, merci.
Pauline, merci d'être venu.
Et
Mathieu, merci d'être venu.
Mais toujours. C'est toujours un plaisir. On se retrouve très vite.
À très vite.
Ciao, salut
ciao.
À tous.
Ciao, ciao.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.